Bonjour, mes frères. Combien d'entre vous ont déjà entendu cette citation ou une variante de celle-ci? Levez la main, s'il vous plaît. La seule constante dans la vie, c'est que tout change. La seule constante dans la vie, c'est que tout change. C'est la seule chose sur laquelle on peut vraiment compter, d'une certaine manière. Les choses ne resteront pas les mêmes. Et si vous considérez la vie d'un point de vue macro, cela devient évident. Une vie typique pourrait ressembler à ceci: vous naissez, tout le monde naît, vous commencez à acquérir des compétences de base, apprendre à penser, à parler, à interagir avec les autres, à raisonner. Vous commencez l'école. Vous savez, dans le monde occidental, cela commence vers l'âge de 5 ans. Historiquement, les gens n'allaient peut-être pas à l'école, mais c'est assez universel de nos jours. Vous allez à l'école, un autre changement dans votre vie, un tremplin dans la vie. Vous mûrissez et devenez adolescent, puis adulte. Vous poursuivez peut-être des études secondaires, collégiales, universitaires ou professionnelles, une série constante de changements. Rien ne reste jamais pareil. Vous développez une carrière. Nous vivons à la fin. Certaines de ces étapes peuvent être tronquées pour certaines personnes. Mais d'une manière générale, c'est à cela que ressemble la vie depuis 6000 ans. Vous tombez amoureux, vous vous mariez, vous fondez une famille, vous avez des enfants, vous élevez cette famille, vous voyez ces enfants grandir. Ils vivent même ce cycle. Vous devenez grands-parents, vous vous adaptez à la vieillesse, puis vous finissez par mourir. Une série de changements. De la naissance à la mort. Rien ne reste jamais pareil. Dans Ecclésiaste 3, le roi Salomon l'a exprimé ainsi, une caractérisation très célèbre de ce dont nous commençons à parler ici. Le chapitre 3 de l'Ecclésiaste a fait l'objet de nombreuses chansons. Par exemple, j'ai emprunté ce passage de l'Ecclésiaste 3 parce qu'il est très poignant. Cette vie est faite de changements. 3. 1. Il y a un temps pour tout, et un temps pour chaque chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Aucun de ces passages n'a vraiment besoin d'explication, car ils sont universels à l'existence humaine. Je suppose qu'un temps pour tuer, on pourrait dire les animaux, par exemple, nous, en tant que chrétiens, nous ne tuerions pas des êtres humains, mais c'est globalement universel ici. Un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'abstenir d'embrasser. Un temps pour acquérir et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour semer. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Une longue série de changements. Or, ces choses n'arrivent pas toutes seules. Oui, le temps et le hasard s'appliquent à tous, mais dans l'ensemble, nous contribuons à influencer le type de changements qui se produisent tout au long de notre vie. Dieu nous donne, à certains égards, la latitude de contrôler ce qui se passe dans notre vie, ou du moins d'influencer ces changements. Par exemple, qui nous épousons, comment nous élevons nos enfants, ce que nous étudions. Nous avons le choix. Ce sont le résultat de décisions prises. Verset 17. J'ai dit en mon cœur, a dit le roi Salomon, Dieu jugera les justes et les méchants, car il y a un temps et un but pour chaque œuvre. Il y a un temps, excusez-moi, pour chaque but et pour chaque œuvre. J'ai dit en mon cœur, concernant les biens des hommes, que Dieu pourrait les manifester, et qu'ils pourraient voir qu'ils sont eux-mêmes des bêtes. Car ce qui arrive aux fils des hommes arrive aux bêtes. Une seule chose leur arrive. Comme l'un meurt, l'autre meurt aussi. Oui, ils ont tous un seul souffle, de sorte qu'un homme n'a pas de prééminence sur une bête. Car tout est vanité. Tous vont vers un seul lieu. Tous sont de la poussière et tous retournent à la poussière. C'est la façon dont nous gérons ces changements entre la poussière lorsque nous sommes venus à l'existence et la poussière lorsque nous retournons à la terre, ou lorsque notre vie est écourtée. Cependant, Dieu détermine cela dans son plan que nous voyons se dérouler ici. Maintenant, vous et moi, mes frères, avons vécu ces changements dont nous avons commencé à parler à des degrés divers selon où nous en sommes dans le cycle de la vie, mais il y a un autre changement que vous et moi, en particulier, avons vécu de manière unique, et que ceux qui sont en dehors de ces murs n'ont pas vécu. Et c'est le plus grand changement possible, le changement le plus significatif possible. Tout le monde dans cette salle a soit subi ce changement, soit est en train de le poursuivre, soit devrait le poursuivre. Actes chapitre 2. Actes 2 et verset 33. Si la vie est faite de changements, si elle est une série de changements, vous et moi sommes arrivés à un point où nous pouvons opérer le changement le plus significatif possible, le changement le plus important et le plus significatif possible. Actes 2, 33, Pierre dit, étant donc assis à la droite de Dieu, Pierre s'adressant à son auditoire lors de la Pentecôte, étant exalté à la droite de Dieu et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez maintenant, car David n'est pas monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait de ce Jésus que vous avez crucifié, à la fois Seigneur et Christ. Nous savons que nos péchés collectifs en tant qu'humanité ont joué un rôle dans cette crucifixion. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui se trouvaient dans son auditoire immédiat. Christ a dû mourir pour chacun d'entre nous. Or, lorsqu'ils entendirent cela, ils furent touchés au cœur. Une traduction plutôt faible, ils furent touchés au plus profond de leur être, pour ainsi dire. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes et frères, que devons-nous faire? Nous avons participé à la crucifixion du Fils de Dieu. Que devons-nous faire? Qu'attend Dieu de nous, après avoir envoyé son Fils mourir? Alors Pierre leur dit, repentez-vous. Ce qui signifie simplement en grec, pensez différemment. Changez, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur Dieu en appellera. La conversion, mes frères, est le changement le plus important qu'un être humain puisse vivre, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église. C'est le changement ultime, ou plutôt, je devrais dire, c'est un grand changement sur le chemin qui mène au changement ultime. Une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous allons encore plus loin. Romains 12. Alors que nous abordons l'élément spécifique du changement dont nous allons parler. Romains chapitre 12. Nous avons été transformés, nous nous sommes repentis afin de pouvoir être baptisés et recevoir le Saint-Esprit, mais cela va encore plus loin. Il y a une transformation, un changement qui se produit dans notre vie quotidienne en tant que chrétien sur le chemin du changement ultime. Romains chapitre 12 verset 1 « Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, et ne vous conformez pas au siècle présent. Ne restez pas comme tout le monde dans ce monde. Ne restez pas les mêmes qu'avant votre conversion, mais soyez transformés, métamorpho en grec. Pensez à la métamorphose d'une chenille en papillon, d'une créature laide en une créature magnifique, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce grand changement, mes frères, bien sûr, domine, influence et doit guider tous les autres changements qui se produisent tout au long de notre vie. Nous devons nous adapter à tous ces autres changements en nous basant sur ce grand changement qui s'est produit dans notre vie, ou qui est prévu de se produire dans notre vie si nous ne sommes pas encore baptisés et convertis. Voici maintenant le cœur de ce dont nous allons parler. L'apôtre Paul, dans son livre, a résumé tous les changements auxquels nous sommes confrontés en les divisant en deux catégories distinctes dans Philippiens 4. Veuillez ouvrir votre Bible à Philippiens 4. Dans ces deux catégories distinctes, nous allons aborder aujourd'hui le thème du changement, de la gestion du changement et de l'adaptation au changement. Philippiens 4 verset 10. Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que, enfin, votre sollicitude à mon égard s'est renouvelée. Vous y aviez déjà pris soin, mais vous n'en aviez pas eu l'occasion. Paul, ce grand serviteur de Dieu, avait bien sûr besoin de l'aide et du soutien des frères, et il était heureux de voir qu'ils étaient disposés à le faire. Bien sûr, il aurait pu continuer à survivre sans eux. Il dit au verset 11, « Je ne dis pas cela parce que je suis dans le besoin, car j'ai appris à être content de ce que j'ai, quelle que soit ma situation. Peu importe ce qui se passe autour de moi, j'ai appris à être content. Quels que soient les changements que je subis, que je traverse, j'ai appris à me contenter. C'est une réussite extraordinaire, quelque chose à laquelle nous devrions tous aspirer. C'est très difficile, mais c'est une réussite extraordinaire. Je sais être dans l'humiliation, c'est-à-dire déprimé ou humilié dans mon cœur, et je sais être dans l'abondance. En grec, cela signifie être dans l'excès, exceller. Paul, l'apôtre Paul, a appris à être déprimé et à abonder, à exceller, et à se contenter dans les deux cas, quels que soient les changements auxquels il était confronté. Partout et en toutes choses, j'ai appris, c'est donc quelque chose qu'il a appris, à être rassasié et à avoir faim, à abonder et à souffrir le besoin. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Mes frères, savons-nous comment être humiliés et abondants et être satisfaits partout et en toutes choses? C'est un objectif noble auquel aspirer. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment gérer les changements de la vie? Les mauvais moments et les bons. Parce que rien ne restera jamais pareil. La seule constante dans la vie est le changement. Bien sûr, avec un sujet comme celui-ci, on ne peut aborder que certains points importants. Ce n'est en aucun cas un examen exhaustif de la manière d'abonder et d'être humilié. Mais nous aborderons certains points importants qui vous aideront vraiment à gérer chacune de ces situations. Vous vous dites peut-être, « Bon, gérer l'humiliation, d'accord, c'est un défi. » Mais remarquez comment Paul a dit, « J'ai dû apprendre à abonder. » Car à certains égards, abonder peut être encore plus dangereux que d'être humilié pour un chrétien. Nous verrons cela. Mais nous commencerons par voir comment gérer l'humiliation, comment gérer la dépression, comment gérer l'adversité. Paul a résumé la première de ces deux grandes catégories. Et la première clé pour gérer l'humiliation est de reconnaître, d'accepter et de s'accrocher au fait que cette vie a été conçue pour être difficile. Dieu a voulu que ce soit difficile. Nous comprenons que le processus de formation du caractère consiste à agir correctement face à l'adversité. Or, sans cette humiliation, sans ces circonstances difficiles, Cela serait impossible. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Cette vie est conçue pour être difficile. Il n'est donc pas étrange que nous devions endurer l'humiliation. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 27, car le Père a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a tout soumis, le Père, a été accepté, le Père est accepté, celui qui lui a tout soumis, Christ. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Sinon, que feront ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent pas du tout? Pourquoi se font-ils baptiser pour les morts? Pourquoi sommes-nous alors exposés au danger, c'est-à-dire au péril, à chaque instant? C'est ainsi que Paul, ici dans Corinthiens, caractérise la vie chrétienne. Nous sommes en danger, en péril à chaque instant, car tout est en jeu pour vous et moi, mes frères. C'est une vie merveilleuse, mais c'est une vie très sérieuse. Tout est en jeu. Notre vie éternelle, la seule chose qui compte vraiment dans le grand schéma des choses, excusez-moi, est en jeu à chaque instant. Je proteste par votre joie que j'ai en Christ, notre Seigneur, je meurs chaque jour. Paul a reconnu qu'il devait changer. Il devait se débarrasser, mourir à ces éléments de son caractère qui ne le faisaient pas progresser vers le but ultime, celui d'entrer dans la famille de Dieu. Cette vie peut faire mal. Nous avons tous eu notre part d'épreuves. Le cœur connaît sa propre amertume, je crois que c'est ce que disent les proverbes. Les épreuves que vous endurez, mes frères, les épreuves que j'endure, vous savez combien les vôtres sont difficiles. Je sais combien les miennes sont difficiles. Mais nous traversons tous des épreuves, nous sommes tous en danger, nous sommes tous en péril à chaque instant. Jean 15. Mais Dieu l'a voulu ainsi, Jean chapitre 15. Et curieusement, cela devrait nous réconforter un peu, car nous apprenons mieux, nous apprenons plus pleinement, comment être humilié. Comment être satisfait d'être humilié? Savoir que notre Père céleste l'a voulu ainsi. Il accomplit une œuvre en moi. Il forge mon caractère. Christ a enduré des souffrances au-delà de ce qu'aucun homme n'a jamais connu, et regardez où il a fini. Jean 15. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Il émonde les sarments qui portent du fruit afin qu'ils en portent davantage. C'est son désir, la croissance. Mais la croissance ne vient qu'à travers la douleur. J'ai un arbre dans mon jardin, et c'est un bel arbre. Je pense que c'est une variété d'épicéa. Il est assez grand, mais toutes les branches situées à environ 2/3 de la hauteur ont dépéri, et j'ai coupé ces branches dans l'espoir de forcer la croissance du reste de l'arbre. Mais cela ne semble pas bien fonctionner, et si la mort continue de progresser vers le haut de l'arbre, il faudra l'abattre. Mais l'intention de Dieu lorsqu'il taille, lorsqu'il élimine ce qui est mort dans nos vies, c'est de forcer la croissance dans les zones vivantes. C'est toujours le but de la taille, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit de tailler ces branches individuelles qui nous représentent. Maintenant, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits de lui-même, s'il ne demeure pas sur le cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il y a beaucoup de gens talentueux sur cette terre. Il y a beaucoup de gens qui font preuve d'un caractère extraordinaire selon le sens humain. Beaucoup de gens que nous pouvons regarder autour de nous et nous demander, pourquoi Dieu n'a-t-il pas appelé cette personne? Elle a tout pour elle. Sa vie est en ordre. Elle prend les bonnes décisions face à l'adversité, vous savez, certaines personnalités politiques ou historiques. Oh là là! Quel caractère extraordinaire! Eh bien, ils ne sont pas restés en Christ. Ils n'étaient pas attachés à la vigne. C'est merveilleux de voir comment ils mènent leur vie coupée de Dieu, mais Dieu n'agit que dans ceux qui sont attachés à la vigne. Et nul ne peut venir à cette vigne si le Père qui l'a plantée ne l'attire. Personne ne peut s'installer comme un sarment. C'est un privilège très unique que nous avons. Mais en tant que sarmentés, on attend de nous que nous produisions beaucoup de fruits. Et la seule façon d'y parvenir est d'être taillé. Vous pensez au sens physique, taillé avec une grande paire de ciseaux métalliques. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Mais Dieu l'a conçu ainsi. La deuxième clé pour être humilié, c'est de savoir que le changement arrive. Pour revenir au début du message, la seule chose constante dans la vie, c'est le changement. Le changement arrive. Ecclésiaste chapitre 7. Si nous traversons une période difficile, Dieu nous fait une promesse générale ici, dans Ecclésiaste 7, vous savez probablement où je veux en venir, 7, 14, au jour de la prospérité, sois joyeux. Quand tu es dans l'abondance, revenons à Paul, sois joyeux. Mais au jour de l'adversité, réfléchis, apprends. Lorsque vous êtes humiliés, nous devons tirer les leçons qui nous permettront de grandir. Dans les jours d'adversité, réfléchissez. Dieu a également opposé l'un à l'autre, ils se succèdent, l'un après l'autre, afin que l'homme ne trouve rien après lui. Si les choses vont mal, tant que nous faisons notre part, elles s'amélioreront. C'est une promesse de Dieu. Ils se succèdent, l'un après l'autre. Vous pensez que la grande épreuve pour nos jeunes est de trouver un partenaire. Et si vous pensez avoir attendu longtemps, laissez-moi vous dire que j'ai attendu 17 ans après avoir été appelé. Et pendant une grande partie de ces 17 années, je n'avais pas l'impression que les jours de prospérité étaient pour demain. On l'espère. On prie pour cela. En fin de compte, c'est entre les mains de Dieu. Bien sûr, nous avons un rôle à jouer, la façon dont nous nous comportons, mais je n'ai jamais perdu espoir et quitté l'Église pour trouver un partenaire ailleurs. Et je ne suis pas le seul à avoir attendu longtemps. Il y a aujourd'hui dans l'Église de nombreux exemples de personnes qui ont attendu un conjoint. Mais finalement, j'ai eu la chance de trouver une femme dont je suis très reconnaissant. Ces 17 années m'ont semblé interminables. Je n'avais pas l'impression que les jours de prospérité étaient à portée de main. Nous y reviendrons dans un instant, car il y a des exceptions. Il y a des épreuves ou des circonstances à long terme que Dieu nous permet d'endurer, et nous devons les considérer à la lumière de ce que dit l'Ecclésiaste 7. Mais quand je suis entré dans l'Église, je venais du monde, j'avais mis fin à une relation et j'étais en fait devenu un dissident. Et je me suis dit, oh, dans 6 mois, je trouverai quelqu'un. J'avais 18 ou 19 ans. Et le chapitre 4 de Jacques me vient à l'esprit, Jacques 4. Car dans l'ensemble, Dieu est l'architecte des changements majeurs dans nos vies si nous le cherchons et le suivons. et je suis reconnaissant de n'avoir trouvé personne pendant ces 17 années, car j'ai trouvé celle avec qui Dieu voulait finalement que je sois. Je n'ai pas désobéi à sa volonté, je ne me suis pas uni prématurément à quelqu'un d'autre, ni quitté l'Église pour le faire. Jacques chapitre 4, verset 13. Allez maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous y passerons une année, nous y ferons du commerce et nous y ferons des affaires. Si moi, je trouverai une femme. C'est une autre façon de le dire. Alors que vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Car qu'est-ce que votre vie? Elle est même une vapeur qui apparaît pour un peu de temps, puis disparaît. Jacques dit, gardez à l'esprit la vue d'ensemble. Cette existence est temporaire, car vous devriez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Cherchez la volonté de Dieu, dit Jacques. Mais maintenant, vous vous réjouissez dans vos vantardises, toute joie de ce genre est mauvaise. C'est pourquoi, à celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché. Les choses finiront par s'améliorer, mais nous devons garder à l'esprit que cette vie, du point de vue de Dieu, est très, très courte. Ainsi, dans toute épreuve, nous pouvons avoir l'impression de supporter quelque chose pendant très longtemps. Dans les yeux de Dieu, cela peut être très court. Il s'agit peut-être d'un mécanisme par lequel il produit beaucoup de fruits. Il se peut qu'il veuille que nous apprenions certaines leçons avant de nous accorder le prochain changement, car ce changement pourrait être trop difficile à gérer et nous être préjudiciable. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Et parfois, il y a des choses dans cette vie que Dieu nous laisse simplement vivre. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. C'est sa volonté de nous laisser dans certaines circonstances. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas lui demander d'intervenir, de changer les choses, mais il y a une situation très particulière dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Si nous voyons que Dieu, dans sa parole, promet quelque chose ou dit que quelque chose est bon, nous pouvons certainement le rechercher, mais il y a des moments où Dieu peut ne pas nous donner ce que nous demandons. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Il n'est pas opportun, verset 1, pour moi de me glorifier. J'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. J'ai connu un homme en Christ il y a plus de 14 ans, si c'était dans son corps, je ne saurais le dire, ou hors de son corps, je ne saurais le dire, Dieu le sait. Car un tel homme a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Nous comprenons cela mieux que jamais après l'étude biblique du sabbat dernier. Et j'ai connu un tel homme, si c'était dans son corps ou hors de son corps, je ne sais pas, Dieu le sait. Comment, lorsqu'il a été enlevé au paradis, il a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme de prononcer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, mais de mes infirmités. Paul a été exposé à des visions extraordinaires ou à une expérience réelle dans le troisième ciel. Et pouvez-vous imaginer, vous savez, l'un des frères a été dans le troisième ciel. Eh bien, j'ai été dans le troisième ciel. Je veux dire, c'est une grande fierté à porter sur sa poitrine. Dieu a donc dit, je dois enseigner à cet homme qui a appris à abonder. Je veux dire, ce serait à peu près le summum de l'abondance dans cette vie, se voir dans la gloire au troisième ciel. Quelle expérience incroyable et inspirante! Eh bien, il a appris à abonder à cet égard. Il doit aussi apprendre à être humilié, et comment Dieu a-t-il fait cela? Je ne me glorifierai pas de cela, mais je ne me glorifierai pas non plus de moi-même, mais de mes infirmités. Il lui a donné des infirmités. Car, bien que je désire me glorifier, je ne serai pas insensé, car je dirai la vérité, Mais maintenant, je m'abstiens, de peur que quelqu'un ne pense de moi plus que ce qu'il voit en moi ou entend à mon sujet. Et afin que je ne sois pas exalté au-delà de mesure par l'abondance des révélations, il m'a été donné une écharde dans la chair, un messager de Satan pour me frapper, afin que je ne sois pas exalté au-delà de mesure. Nous avons souvent pensé que Paul souffrait d'un problème aux yeux. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à des problèmes de santé à long terme ou à des circonstances de vie durables que nous aimerions voir changer. C'est pourquoi j'ai supplié le Seigneur à trois reprises de l'éloigner de moi, et il m'a dit, Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de prier après trois fois. Il s'agissait d'une circonstance très particulière où Dieu a spécifiquement répondu à la prière de Paul et lui a dit, Cesse de prier à ce sujet, ma grâce te suffit. Mais voici l'exemple d'un homme qui endure une condition physique, encore une fois, il ne s'agit pas nécessairement d'une épreuve de santé, d'une condition physique, et Dieu, pour ses propres grands desseins, pour forger le caractère de Paul, a dit, Je ne vais pas répondre à ta prière. Gloire-toi dans tes infirmités. Je ne veux pas que tu sois exalté au-delà de toute mesure. Je ne veux pas que les choses te soient si favorables dans la vie que tu te vois dans le troisième ciel, que tu sois en parfaite santé, que tout aille pour le mieux. Cela serait préjudiciable à ton caractère, Paul. Cela te ferait du mal. Je ne vais donc pas te donner ce que tu désires physiquement. C'est pourquoi je me réjouis dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans elles, dans les persécutions et dans les détresses pour l'amour de Christ. Excusez-moi, nous avons sauté le verset 9, la fin. Et il m'a dit, Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je veux que tu sois fort, alors je vais laisser cette situation perdurer, Paul. Ce n'est pas ce que vous aimeriez entendre. Et ce n'était pas un problème insignifiant auquel cet homme était confronté. Je veux dire, c'était un apôtre. Écrire et lire était crucial. Voir les gens face à face était crucial. C'est pourquoi je me glorifierai plutôt de mes infirmités, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour l'amour de Christ. Quel changement de mentalité! Quelle mentalité à laquelle aspirer? Dans les détresses pour l'amour de Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais voilà, tout cela étant dit, un jour, la vision de Paul s'améliorera. Il pourra voir comme Dieu voit. Cette maladie physique est temporaire. Dieu ne s'en occupera peut-être pas autant que Paul l'aurait souhaité ou autant que nous aimerions que certaines circonstances changent. Mais en fin de compte, les choses s'amélioreront si nous forgeons notre caractère, si nous entrons dans la famille de Dieu, les choses s'amélioreront infiniment et tout ce que nous avons dû traverser, nous y repenserons et nous nous dirons, Oh là là, je suis vraiment reconnaissant que Dieu m'ait permis de forger mon caractère dans ces circonstances et ne m'ait pas simplement donné le chemin facile, ne m'ait pas simplement donné la voie facile. Que ce soit quelque chose que vous traversez, la perte d'un être cher, ou quelque chose que je traverse, peu importe. Vous pouvez remplir les blancs. Ce désir ardent pour ceci ou cela disparaîtra. Il s'en ira. Troisième clé pour savoir comment être humilié, garder une vue d'ensemble à l'esprit. Nous avons abordé ce point à la fin de la dernière clé, mais garder une vue d'ensemble à l'esprit. Tout ce qui nous préoccupe dans le domaine physique est sans importance dans le grand schéma des choses. En supposant que nous l'utilisions correctement. Matthieu chapitre 6, Matthieu 6. Matthieu 6. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous vous vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ce sont des besoins fondamentaux. Christ dit de ne pas s'inquiéter même pour les besoins fondamentaux. Il s'en occupera. Dieu s'en occupera. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en s'inquiétant, peut ajouter une coudée à sa taille? Bien sûr, ces animaux doivent agir pour se nourrir, mais Dieu pourvoit à leurs besoins tout comme il pourvoit aux nôtres, tout en attendant de nous que nous agissions. N'êtes-vous pas bien meilleur qu'eux? Qui d'entre vous, en s'inquiétant, peut ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez les lys des champs, comment ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent. C'était une époque où les gens avaient à l'esprit des besoins plus fondamentaux, au-delà des besoins que certains d'entre nous pensent avoir ou espèrent avoir, les besoins les plus fondamentaux. Considérez les lys des champs, comment ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Et pourtant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu a ainsi vêtu l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô vous qui avez peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, en disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous vêtirons-nous? Car toutes ces choses, les païens les recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, ce caractère, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cette vie et les choses qui s'y trouvent sont une vapeur, comme nous l'avons vu dans Jacques. Elles sont là, puis elles disparaissent. Elles sont là un instant, puis elles s'en vont. Lorsque nous sommes humiliés, nous devons garder à l'esprit la situation dans son ensemble. Nous devons nous concentrer sur ce qui est permanent. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 2. Nous devons nous concentrer sur ce qui est permanent. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Nous allons reprendre, mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Un avenir extraordinaire nous attend, et il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas à son sujet. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Quelle existence extraordinaire nous attend! Et nous en comprenons certains éléments, verset 10, mais Dieu nous les a révélés par son esprit. Il y a certaines choses concernant le cadre de ce qui va arriver que nous comprenions très clairement et auxquelles nous voulons participer, car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Beaucoup de choses qui nous attendent dépassent notre compréhension. Nous devrons être là pour les voir. Je ne sais pas ce que c'est que d'habiter l'éternité, et vous non plus. Nous voulons certainement le découvrir, et ce que nous comprenons, c'est que nous habiterons l'éternité avec le Père et avec d'autres qui vivent les mêmes choses que nous avec Christ. Nous nous concentrons sur ce qui est permanent, sur ce qui sera là pour toujours. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Nous sommes physiques maintenant, mais nous nous concentrons sur ce qui est permanent. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous avons ce trésor, le Saint-Esprit, le gage, l'acompte de Dieu, dans des vases d'argile. Nous sommes des pots d'argile. Nous ne sommes pas permanents. Nous sommes temporaires. Afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous ne pouvons pas dire, oh, nous l'avons fait. Nous avons ces corps charnels et faibles. Non, l'excellence de la puissance, c'est Dieu qui œuvre en nous, en route vers ce grand changement. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Perplexes, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non détruits. Portant toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Nous marchons sur ses traces, nous grandissons et nous vainquons tout comme lui l'a fait, grâce à la puissance fournie par Dieu. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Nous avons le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Nous savons que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous présentera avec vous. Nous savons qu'un changement est imminent. Car toutes ces choses sont pour vous, afin que la grâce abondante, par la reconnaissance de beaucoup, redonne gloire à Dieu, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Mais si notre homme extérieur se détruit, si le physique, si le temporaire passe dans le passé, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme était concentré sur Dieu et les choses de Dieu. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est la vue d'ensemble. Lorsque Dieu nous permet de traverser des difficultés, cela produit en nous un poids éternel de gloire bien plus grand. Nous ne regardons pas les choses qui se voient, mais celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient, quoi que nous traversions, quoi que nous vivions ici, les choses qui se voient sont temporaires, elles sont éphémères. Mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Car nous savons que si notre demeure terrestre, cette tente, est détruite, nous avons un édifice de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main d'homme, pas un vase d'argile, pas un pot en argile, éternel dans les cieux. C'est là le tableau d'ensemble. Se concentrer sur notre avenir plutôt que sur le présent. Éternel dans les cieux. Car nous gémissons en cela, désirant ardemment être revêtus de notre demeure qui est du ciel. Cela devrait être au premier plan de nos pensées chaque jour, je veux changer, je veux entrer dans la famille de Dieu. Je ne veux plus être physique. Aussi merveilleuse que soient certaines choses dans cette vie, je veux entrer dans la vie suivante. Si donc, une fois revêtus, nous ne sommes pas trouvés nus. Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, non pas parce que nous voulons être dépouillés, mais parce que nous voulons être revêtus, afin que la mortalité soit engloutie par la vie. Or, celui qui nous a formés, c'est Dieu lui-même, qui nous a aussi donné les arts de son esprit. C'est pourquoi nous sommes toujours confiants, sachant que tant que nous sommes dans notre corps, nous sommes loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes confiants, je le dis, préférant être absent du corps et présent auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous nous efforçons, que nous soyons présents ou absents, d'être agréés par lui. Le but le plus élevé et le plus noble. Car nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Ce n'est pas seulement notre changement que nous devons garder à l'esprit, ce n'est pas le seul élément du tableau d'ensemble qui nous aidera à traverser l'adversité, qui nous aidera à traverser l'humiliation, qui nous aidera à traverser les circonstances déprimantes. Deuxième épître de Pierre, Chapitre 3. Cela va au-delà de notre propre changement. Nous vivons bien sûr selon le principe du don. Nous voulons un changement radical pour tout le monde. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 7. Mais les cieux et la terre, qui sont maintenant conservés par la même parole, sont réservés pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais, bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour auprès du Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, à la fin du premier royaume, où les cieux passeront avec un grand bruit et les éléments fondront dans une chaleur ardente, et la terre aussi, avec les œuvres qui s'y trouvent, sera consumée. Voyant donc que toutes ces choses doivent se dissoudre. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui est temporaire et que nous voyons en regardant à gauche, à droite, en haut, en bas. Les cieux disparaîtront dans un grand bruit, et les éléments fondront dans une chaleur ardente. La terre aussi, avec tout ce qui s'y trouve, sera consumée. Voyant donc que toutes ces choses doivent être détruites, quelle sorte de personne devez-vous être dans une conduite sainte et pieuse ? D'accord, tout ce qui est physique va être détruit. La seule façon pour nous d'échapper à cette destruction est de devenir permanent. En attendant et en attend l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés seront dissous, nous attendons. Et où les éléments se dissoudront dans une chaleur ardente. Néanmoins, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, ce qui vient après cela, où la justice habite. Nous voulons voir la paix, nous voulons voir l'ordre, nous voulons voir la voix de Dieu se répandre, nous voulons voir les autres recevoir ce qui nous a été offert. Nous voulons voir le changement dans des milliards de vies que nous avons eu l'occasion d'apporter maintenant dans nos vies. Voilà donc comment gérer l'humiliation. Quelques clés pour gérer l'humiliation. Passons maintenant à l'autre côté de l'équation. Paul a également dit qu'il avait appris, qu'il avait reçu des instructions sur la manière d'abonder. Il y avait une manière appropriée d'abonder. On pourrait se demander, qu'avons-nous besoin d'apprendre sur l'abondance? Cela semble merveilleux. Dans les jours de prospérité, soyez joyeux, a dit le roi Salomon. Qu'y a-t-il au-delà de la joie? Quelle a été la leçon d'Israël? Ils ont été extrêmement humiliés en Égypte. Ils ont énormément souffert. Et finalement, leurs cris sont montés jusqu'à Dieu. Ils ont crié, et il les a délivrés. Nous comprenons cela. Mais voici le résumé de cette délivrance, tel qu'il est expliqué dans le psaume 106. Psaume 106. Ont-ils bien géré l'abondance? Psaume 106. Parce que c'est un risque réel. Quand tout va bien, il est facile de s'éloigner de Dieu. Psaume 106. Si nous ne sommes pas obligés de le chercher et de compter sur lui, il peut être facile de s'éloigner. Psaume 106, verset 7. Nos pères n'ont pas compris tes merveilles en Égypte. Ils ne se sont pas souvenus de la multitude de tes miséricordes, mais ils l'ont provoqué à la mer rouge. Dieu les a délivrés, et à la mer rouge, presque immédiatement après cela, immédiatement après cette délivrance, ils l'ont oublié. Ils ne se souvenaient pas de la multitude de ses miséricordes, mais ils l'ont provoqué à la mer rouge. Néanmoins, il les a sauvés pour l'amour de son nom, afin de faire connaître sa puissance. Il a aussi réprimandé la mer rouge, qui s'est asséchée, afin de les conduire à travers les profondeurs comme à travers le désert. Et il les a sauvés de la main de ceux qui les haïssaient, et les a rachetés de la main de l'ennemi. Les eaux ont recouvert leurs ennemis, et il n'en est resté aucun. Alors ils ont cru à ses paroles, et ils ont chanté ses louanges. Bon, d'accord, ils ont recommencé à croire. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, et n'attendirent pas ses conseils, verset suivant. Mais ils se livrèrent à des convoitises dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur donna ce qu'ils demandaient, mais il envoya la maigreur dans leur âme. Ils envièrent Moïse dans le camp, et Aaron, le saint du Seigneur. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan et couvrit la compagnie d'Abiram. Et un feu s'alluma dans leur compagnie, et les flammes consumèrent les méchants. Ils vivaient beaucoup mieux qu'ils ne le faisaient en tant qu'esclaves en Égypte, mais tout cela leur arriva parce qu'ils ne se souvenaient pas de Dieu. Incroyable! Ils ont pleuré pendant des années et des années sous le joug sévère de l'esclavage en Égypte. Ils ont été délivrés par de puissants miracles, mais ils ont oublié. Ils ont fabriqué un veau à horrible et ont adoré l'image fondue. Ainsi, ils ont changé leur gloire en la ressemblance d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils ont oublié Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. C'est là le principal danger de l'abondance. Après l'épreuve, la délivrance, tout va bien. La nature humaine est d'oublier le Dieu qui nous a sortis de circonstances difficiles. Si vous êtes comme moi, vous pouvez repenser au moment où vous avez été appelé. La vie était difficile pour moi. Le chemin des transgresseurs est difficile, a dit Christ, ou peut-être était-ce Salomon. Je ne m'en souviens pas exactement. La vie était difficile avant ma conversion, et Dieu, dans sa miséricorde, a décidé de nous sortir de cette situation, de ces circonstances. Mais il est facile d'oublier cela avec le temps, lorsque les choses sont beaucoup plus faciles en tant que personne convertie, lorsque les choses ne sont pas chroniquement difficiles, il est beaucoup plus facile de laisser notre esprit s'éloigner de Dieu. Des œuvres merveilleuses dans le pays de Cham et des choses terribles près de la mer Rouge, ils ont oublié. C'est pourquoi il a dit qu'il les détruirait, si Moïse, son élu, ne s'était pas tenu devant lui dans la brèche, pour détourner sa colère, de peur qu'il ne les détruise. Incroyable oubli. Mais ce n'est pas seulement quelque chose qui peut arriver à Israël. Et cet oubli ne s'est pas arrêté là, il ne s'est pas arrêté avec la délivrance d'Égypte, Deutéronome chapitre 8. Il s'est étendu au-delà de elle. Car lorsque les choses s'améliorent, nous avons tendance à baisser notre garde. Nous avons tendance à réduire peut-être nos contacts avec Dieu. Oh, les choses vont bien. Je n'ai pas besoin d'étudier autant. Je n'ai pas besoin de prier autant. J'ai ceci apprécié, j'ai cela apprécié, et une chose en entraînant une autre, nous nous éloignons rapidement de Dieu, tout comme l'ancien Israël. Nous oublions le Seigneur notre, le Dieu qui nous a sauvés. Deutéronome chapitre 8. Une chronique étonnante qui représente la même chose. Tous les commandements, verset 1, que je vous prescris aujourd'hui, vous les observerez, afin que vous viviez et que vous vous multipliez, et que vous alliez prendre possession du pays que le Seigneur Dieu a juré à vos pères de vous donner. Lorsque vous entrerez dans la terre promise, je veux que vous gardiez ces choses à l'esprit, dit Dieu, et vous vous souviendrez de tout le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert pour vous humilier et vous éprouver, afin de savoir ce qu'il y avait dans votre cœur, si vous garderiez ses commandements ou non. Il vous a humilié, vous a fait souffrir de la faim et vous a nourri de la manne, que vous ne connaissiez pas et que vos pères ne connaissaient pas, afin de vous faire comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous faisons donc un bond en avant de 40 ans après cet oubli initial. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et vos pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 ans. Souvenez-vous de ces choses, Israël, dit Dieu, vous considérerez aussi dans votre cœur que, comme un homme châtie son fils, ainsi le Seigneur votre Dieu vous châtie. C'est pourquoi vous observerez les commandements du Seigneur votre Dieu, pour marcher dans ses voies et les craindre. Car le Seigneur ton Dieu te fait entrer dans un bon pays, un pays où coulent des ruisseaux, des eaux et des sources, qui jaillissent des vallées et des collines, un pays où pousse le blé, l'orge, la vigne, les figuiers et les grenadiers, un pays où coule l'huile et le miel. Je vais te donner d'incroyables bénédictions matérielles, Israël. N'oublie pas mes lois au milieu de tout cela. Une terre où tu mangeras du pain sans pénurie, et où tu ne manqueras de rien. Une terre dont les pierres sont du fer et dont les collines sont pleines de cuivre. Quand tu auras mangé et que tu seras rassasié, tu béniras le Seigneur ton Dieu pour la bonne terre qu'il t'a donnée. Veille à ne pas oublier le Seigneur ton Dieu, c'est la clé. En observant ses commandements, ses jugements et ses statuts que je te prescris aujourd'hui, de peur que, lorsque tu auras mangé et que tu seras rassasié, que tu auras bâti de belles maisons et que tu y habiteras, lorsque les temps seront bons, lorsque tu seras dans l'abondance, lorsque tu seras dans la surabondance, comme le dit Paul. Gardez-vous, lorsque vous serez dans l'abondance, lorsque vos troupeaux et vos troupeaux se multiplieront, lorsque votre argent et votre or se multiplieront, lorsque tout ce que vous possédez se multipliera, de vous enorgueillir et d'oublier le Seigneur votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est en partie pour cette raison que Christ a mis si fermement en garde contre l'accumulation des richesses. Il est si facile d'oublier Dieu lorsque tout va bien, lorsque vous n'avez pas besoin de compter sur lui pour votre pain quotidien. Maintenant, il ne veut pas que nous soyons pauvres ou que nous vivions au jour le jour dans ce sens, dans le sens le plus extrême, mais il savait que là où est notre cœur, là aussi sera notre trésor. Le cœur d'Israël allait clairement se porter sur les bénédictions matérielles que Dieu leur avait accordées. Et les bénédictions matérielles sont merveilleuses, mais nous ne pouvons pas oublier Dieu lorsque la vie nous sourit, lui qui vous a conduit à travers le grand et terrible désert, où se trouvaient des serpents brûlants, des scorpions, etc. Dieu dit que lorsque les choses vont bien, il faut à tout prix faire attention à ne pas l'oublier. L'une des grandes leçons d'Israël, l'une des grandes leçons, je sais que cela peut paraître drôle, mais comment survivre à l'abondance? L'abondance peut être presque plus dangereuse que l'humiliation. La première façon dont nous pouvons être sûrs de prospérer correctement est expliquée ici. N'oubliez pas Dieu. N'oubliez pas Dieu lorsque tout va bien. Il est beaucoup plus facile de s'éloigner de lui lorsque tout va bien que lorsque nous dépendons constamment de lui pour survivre. Restez proche de Dieu. Combien de fois avons-nous entendu cela? Eh bien, il se peut que nous nous rapprochions de Dieu si nous prospérons, si nous sommes dans l'abondance, si nous prenons du recul et disons, « Vous savez quoi? Je ne suis pas aussi proche de Dieu que je l'étais lorsque les temps étaient durs, lorsque j'étais dans l'humiliation. » Nous avons le pouvoir de changer, et nous ne pouvons pas tarder. Le temps est précieux, et c'est une pente très glissante. Hébreux, chapitre 1, verset 13. À quel ange Dieu a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Puis chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus prêter attention, compte tenu de l'avenir extraordinaire qui nous attend. D'autant plus prêter attention aux choses que nous avons entendues, de peur qu'à un moment donné, quelles que soient les circonstances. Nous ne les laissions échapper. Les laisser s'échapper, les laisser nous filer entre les doigts. Car si la parole prononcée par les anges était ferme, et si toute transgression et toute désobéissance recevaient une juste récompense, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Dans la prospérité, c'est facile à faire. Israël l'a fait. Qui a commencé à être annoncé, et il ne s'agit peut-être pas de richesses matérielles. Il se peut que la bénédiction pour laquelle vous avez prié pendant des années ou des décennies se soit enfin réalisée. Cela nous distrait-il? Le fait de nous réjouir de la prospérité que Dieu nous a donnée nous distrait-il? Ce sont là des questions sérieuses que nous devons nous poser. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, a été confirmé à notre égard par ceux qui l'ont entendu? Dieu leur rendait également témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. Car il n'a pas soumis aux anges le monde à venir dont nous parlons. Mais quelqu'un, en un certain lieu, a rendu témoignage, disant, « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, pour que tu le visites ? Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as établi sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, puis il continue ainsi. Mais les choses de Dieu peuvent facilement nous échapper si nous le permettons, et cela peut se produire d'une manière que nous ne percevons pas pleinement jusqu'à ce que la situation devienne grave. Je lisais plus souvent des romans autrefois, mais je ne lis plus autant aujourd'hui. J'aimais bien Ernest Hemingway, et il y avait un livre, Le soleil se lève aussi. Je ne le recommanderais pas nécessairement, mais il y avait une phrase intéressante dedans. Elle a peut-être été mentionnée récemment dans un message, je ne m'en souviens pas. Mais un personnage qui traversait des difficultés financières, de grandes difficultés financières, s'est vu demander, comment avez-vous fait faillite? Et sa réponse a été double, progressivement, puis soudainement. Eh bien, c'est ainsi que nous pouvons aussi faire faillite spirituellement. Nous pouvons simplement dériver, sans même nous en rendre compte. Et puis, peut-être que cette épreuve surgit de nulle part et détruit notre maison. Peu à peu, nous ne nous rendons même pas compte que nous laissons les choses de Dieu nous échapper, et puis soudain, nous pouvons nous retrouver hors de l'Église. Et je dirais que c'est plus facile de laisser cela se produire lorsque l'on est dans l'abondance que lorsque l'on est dans l'humiliation. Il y a des moments où nous sommes abattus et où nous ne nous rapprochons pas de Dieu parce que nous nous sentons déprimés ou trop concentrés sur nous-mêmes, mais je dirais qu'il est plus facile de laisser échapper les choses de laisser les choses de Dieu s'éloigner lorsque tout va bien, de perdre progressivement de vue les choses de Dieu et puis soudainement de tout perdre. La prochaine façon d'abonder correctement, est d'être reconnaissant. Nous devons toujours être reconnaissants. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Nous vous exhortons, frères, verset 14. Nous vous exhortons, frères, à avertir ceux qui sont indisciplinés, à réconforter ceux qui sont timides, à soutenir les faibles, à être patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal à quiconque, mais poursuivez toujours le bien, entre vous et envers tous. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse. En toute chose, rendez grâce. Tout ce que nous avons de bon vient de Dieu. Tout don parfait vient du Père des Lumières, a dit Jacques. Nous devons remercier Dieu pour tout ce qui est bon dans la vie. Et au milieu de la prospérité, au milieu de l'abondance, il y a encore plus de raisons d'être reconnaissant. Le simple fait de montrer à Dieu notre gratitude pour ce qu'il nous a donné permettra de maintenir ouverte la ligne de communication entre vous et Dieu, entre moi et Dieu. Cela garantira que nous ne laissons pas les choses qu'il nous a données, les bénédictions qu'il nous a accordées, prendre le pas sur notre relation avec lui. Rendez grâce en toutes choses, sans réserve ici, car c'est la volonté de Dieu en Jésus à votre égard. C'est ce qu'il veut. N'éteignez pas l'esprit, directement lié à cela, et ne méprisez pas les prophéties. Soyez reconnaissants même pour les épreuves. Dieu nous les donne afin que nous puissions grandir. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Il est beaucoup plus proche que nous ne l'avons jamais pensé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Troisième façon d'agir correctement. Ce sujet est moins important que celui de la première moitié, mais c'est la troisième façon d'abonder. Ne perdez pas votre concentration. Cela peut s'appliquer à l'abondance ou à l'humiliation, mais ne perdez pas votre concentration. Marc chapitre 4. Il fut un temps où nous entendions la parole de Dieu. Nous l'entendons encore régulièrement. Nous nous efforçons de la vivre. Marc chapitre 4. Christ a expliqué la parabole du semeur. 4. 14. Le semeur sème la parole. Et ceux-ci sont ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée, mais quand ils l'ont entendue, Satan vient immédiatement et enlève de leur cœur la parole qui a été semée. Ils ont perdu leur concentration. Ceux-là sont aussi ceux qui sont sur un sol rocailleux, qui, lorsqu'ils ont entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, et ils ne durent qu'un temps. Après cela, lorsque surviennent les afflictions ou les persécutions à cause de la parole, ils sont immédiatement scandalisés. Ils ont perdu de vue le grand prix. Ils se sont laissés distraire. Et ceux-là sont ceux qui sont semés parmi les épines, qui entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les convoitises d'autres choses entrées étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Ils ont perdu leur concentration parce que tout allait bien, parce qu'ils étaient entourés d'objets brillants. Parce qu'il y avait des choses qui pouvaient détourner leur attention des choses de Dieu, ils ont perdu leur concentration. Et puis il y a ceux qui sont semés sur la bonne terre, ceux qui entendent la parole et la reçoivent, se concentrent sur elle. Et portent du fruit, certains 60, 30 et 100 fois plus. La prochaine façon d'abonder correctement est liée à la manière dont nous commençons. Et alors que nous approchons de la fin, cela sera à nouveau lié à cela. Première épître à Timothée, chapitre 6. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Rappelez-vous, Paul a appris à se contenter de tout état dans lequel il se trouvait. Nous devons nous contenter de tout ce que Dieu nous a donné. Première épître à Timothée, chapitre 6, verset 6. La piété avec le contentement est un grand gain. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est certain que nous ne pouvons rien emporter. Nous n'avons rien apporté de physique dans ce monde, et nous ne pouvons rien emporter de physique avec nous. Ayant de quoi manger et de quoi nous vêtir, soyons-en satisfaits, avec l'essentiel. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la perdition et la destruction. Soyez satisfaits de l'essentiel. Il enseignait la même chose que Christ. Verset 17. Recommandez aux riches de ce monde de ne pas être orgueilleux, ni de mettre leur confiance dans des richesses incertaines. Nous comprenons ce que nous devons faire des richesses incertaines selon la volonté de Dieu. Mais le Dieu vivant qui nous donne richement toutes choses pour en jouir, qu'ils aient confiance en lui pour faire le bien, pour être riches en bonnes œuvres. S'ils ont des biens, avec modération, bien sûr. Prêts à distribuer, prêts à aider les autres. Disposés à communiquer, s'amassant ainsi un bon fondement pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle, sans perdre de vue la vie éternelle au détriment de la vie physique, des circonstances physiques, en se concentrant sur l'éternel. Cela est très lié à la première liste. Mes frères, tous les serviteurs de Dieu ont dû apprendre à être à la fois humiliés et comblés. Vous pouvez passer en revue n'importe lequel d'entre eux. Moïse, par exemple, a failli être tué quand il était bébé, c'est être humilié, puis il se retrouve à la cour du Pharaon comme l'un des principaux dirigeants d'Égypte, c'est être comblé. Puis il a voulu délivrer son peuple. Il a appris qu'il était israélite, il a vu leur détresse. Il est donc devant ses dieux, il a tué un Égyptien, puis il a fui pour sauver sa vie. Du sommet de la richesse et du pouvoir, il est redevenu un fugitif, humilié à nouveau. Puis Dieu vient à lui et lui dit, « Je vais t'utiliser pour élever Israël, pour le sortir de l'esclavage, pour qu'il prospère à nouveau. Ceux qui sont à l'intérieur, et les Israélites, ne veulent pas l'écouter, ils sont humiliés. » Cela continue encore et encore. Il aide à délivrer Israël, et il commence à se plaindre contre lui. Dieu se met tellement en colère qu'il dit, « Vous ne pouvez plus entrer dans la terre promise. » Humilié. C'est une succession de hauts et de bas. C'est le schéma de tous les grands serviteurs de Dieu, et c'est le schéma de vous et moi. C'est ainsi que nous vivons notre vie. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à être à la fois humilié et comblé. Revenons à notre point de départ. Philippiens 4, une fois de plus. Philippiens chapitre 4. En fin de compte, Moïse sera dans le royaume de Dieu, dans l'abondance, après ne pas avoir été autorisé à entrer dans la terre promise physique, qu'il aurait tant aimé voir. Une expérience très humiliante. Tu as perdu ton sang-froid, Moïse, tu n'entreras pas. Tu n'as pas expliqué correctement les circonstances de ce miracle, tu n'entreras pas sans donner plus de détails. Philippiens chapitre 4, verset 10. Mais je me suis grandement réjoui dans le Seigneur, car maintenant enfin votre sollicitude à mon égard s'est manifestée de nouveau, alors que vous y étiez attentif, mais que vous n'en aviez pas l'occasion. Je ne dis pas cela par besoin, car j'ai appris à être content dans quelques situations que je me trouve. Je sais être dans l'abondance et je sais être dans le besoin. Partout et en toutes choses, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Frères et sœurs, que nous soyons dans l'humiliation ou dans l'abondance, nous devons rester proches de Dieu. C'est le fil conducteur, le thème commun à toutes les circonstances. Dans le temps qui nous reste, efforçons-nous d'être satisfaits, que nous soyons dans l'humiliation ou dans l'abondance.